curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Question que j'ai aussi, Vez, puis là, ça, on n'est pas rendu là, c'est que si ça se fait, puis il y a un grossi, hein, je vais être ben clair là-dessus, est-ce qu'il y aura, mettons, un montage financier auquel le gouvernement du Québec participerait? T'sais, genre, garantir et la, t'sais, prendre les risques. Mettons qu'il y a 12 000 personnes au lieu de 18 000, est-ce que le gouvernement va venir renflouer et garantir un revenu minimum à la Ligue là-dessus? Ça, je suis pas sûr que la population embarquerait là-dedans. Tu sais, avec tout ce qu'on vit présentement, l'inflation, puis le pouvoir d'achat, puis tu sais, tout le monde le vit, là, c'est tough actuellement, là. Tu sais, ça, c'est l'autre question qui est sans réponse pour l'instant, si le projet finit par se concrétiser. Là,
ouais. Parce qu'il y a un auditeur qui nous demande, la vraie question, c'est pourquoi ils veulent présenter 5 matchs à Québec. Moi, je pense que c'est plus pour mettre de la pression sur Ottawa que pour favoriser Québec. Dans sa quête pour une équipe, parce qu'à Ottawa, on le sait, ça fait des années qu'ils veulent un amphithéâtre au centre-ville parce qu'ils sont à l'extérieur, puis ça piétine. Puis si on fait croire aux gens d'Ottawa ou aux investisseurs potentiels à Ottawa que peut-être l'équipe pourrait déménager à Québec, peut-être que ça va y réveiller à Ottawa.
Totalement d'accord avec toi. Puis hier, j'ai parlé avec nos collègues à Gatineau hier, puis chaque fois qu'il y a question de ça, tu sais, je fais des interventions avec eux autres, Vez, puis ils sont pas contents, là. Ils n'aiment pas ça quand ils entendent parler de ça, cette histoire-là des 5 games. Mais en même temps, ils sont constamment en train de se plaindre que l'aréna est donc bien loin, puis c'est ici, puis c'est ça, puis le trafic. Factuellement, c'est vrai, mais Christy, ils ont une équipe de hockey. T'sais, ils sont quand même assez privilégiés. Puis même quand ils vont... Il y en a une très bonne en plus avec des bons jeunes joueurs, Vez. Mais même quand ils y vont, t'es sûrement déjà allé voir un match des Sénateurs, tabarnouche, c'est mort, là. Je veux dire, c'est mort. Il n'y a pas d'ambiance. On dirait qu'il y a comme une indifférence par rapport à cette équipe-là qui est comme un peu malaisante, là, tu sais.
Mais quand ils vont se mettre à faire les séries puis à gagner des séries, l'ambiance, ça va revenir assez
Mais ils sont allés en finale contre Anaheim il y a quelques années. Puis moi, j'étais pas là, mais ceux qui sont allés m'ont dit que c'était mort en dedans pareil, même en finale contre Anaheim. Ah oui. C'est un drôle de marché. C'est le marché des livres, c'est du Canadien aussi. Faut pas oublier ça.
Oui, c'est sûr. Son encours du Canadien, effectivement. Et voilà. Juste un petit retour sur ma petite montée de l'est sur les joueurs qui bloquent des lancers. Marc Fortier nous écoute.
Hey, salut Marc!
il vient de me texter, je le salue. Il dit Mike Smith, le gardien des Oilers, j'aimerais peut-être ça que ses défenseurs bloquent plus de lancers. Parce que lui, il s'est fait sortir après 10 lancers et 3 buts en première période mercredi. Andrew Burnett des Panthers, Gérard Gallant des Rangers, Daryl Sutter des Flames sont les finalistes pour le trophée. Jack Adams, ça c'est l'entraîneur de l'année dans la Ligue nationale. Les Remparts ont gagné 4-1 à Rimouski hier. Les deux derniers buts dans un filet désert, c'était 2-1, donc tard en troisième. Pour les Remparts, Huchette, Malatesta, Bolduc et Gaucher ont marqué pour les Remparts qui ont dominé 38-21 dans les lancers. Les unités spéciales n'ont pas joué un grand rôle. 0-4 pour les Remparts, 0-3 pour Rimouski. Mais l'important, c'est que les Remparts prennent les devants 2-1 dans cette série-là. Et le quatrième match, c'est ce soir, 19h30. Si jamais, on le souhaite pas, mais si jamais il y a un cinquième match, ça va être dimanche 16h au Centre Vidéotron. Je rappelle que c'est des séries 3-5 pour les trois premières rondes, donc la ronde actuelle et la suivante. Et après ça, la grande finale, ce sera un 4-7. Hier, il y a Charlottetown, Sherbrooke et Shawinigan qui se sont qualifiés déjà pour les demi-finales avec des balayages dans leurs séries respectives. Puis juste un petit mot, une petite pensée pour le président de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Mario Marois, pas l'ancien joueur de hockey, je précise tout de suite, là, un autre monsieur Marois... qui a subi un AVC au cours des derniers jours. La direction de l'Armada qui l'a souligné sur les réseaux sociaux. Alors, on lui souhaite la meilleure convalescence possible. Hier, il y a eu une page d'histoire qui s'est écrite dans le hockey junior canadien parce qu'il y a une première patineuse et non pas une gardienne, parce que c'est déjà arrivé 3 fois pour des gardiennes de but, Charline Labonté, Jenny Lavigne et Taya Curry, qui ont déjà été repêchées par des équipes de la Ligue junior canadienne, donc soit la Ligue junior majeure du Québec, l'Ontario ou l'Ouest, mais hier, c'est une défenseuse de l'équipe de Burnaby Winter Club qui s'appelle Chloé Primorano, qui a été repêchée hier au 13e tour, 268e au total par les Giants de Vancouver. C'est une fille de Vancouver. Alors, elle a été repêchée. C'est une grande première au hockey junior canadien.
J'ai hâte de voir parce qu'il y a des filles, les filles patinent, Vez. Des fois, c'est le shot, la force du lancer. Des fois, je trouve qu'il qui est moins là, je pense. Je veux pas être plate, là, mais c'est un.
Non, mais il y a une
factuelle.
C'est physique.
La réalité est physique. Oh, mais sur le patin, des fois, il y a des filles qui. Je pense qu'il y en a qui pourraient suivre la vitesse du.
Moi, j'ai arbitré Marie-Philippe Poulin jusqu'à ce qu'elle joue midget espoir, là. Puis elle n'avait pas passé dans midget 3, finalement.
Ouais.
Mais tu sais, c'est la meilleure joueuse au monde, puis elle n'avait pas passé midget 3.
Midget 3,
à ce moment-là.
Ça.
Bon, ça fait quand même quelques années, là. Je parle d'au moins une dizaine d'années, si c'est pas 12, là. Est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce qu'elle n'était pas assez forte pour passer? C'est toutes des questions auxquelles j'ai pas de réponse.
Mm-hmm.
Mais tu sais, je veux quand même mettre en perspective que c'est la meilleure joueuse au monde aujourd'hui, puis elle avait pas passé midget 3 à ce moment-là. C'est juste une question de comprendre, là. C'est pas une critique quoi que ce soit. Encore une fois, on l'a dit, c'est l'épreuve de la réalité.
C'est du factuel. Mais tu sais, est-ce qu'elle avait pas fait le club parce que c'était une question de mentalité?
Ouais, c'est ça ma question. Je sais pas.
Mais dix ans plus tard, puis là, faut peut-être pas s'attendre à ce que Chloé Primorano fasse l'équipe la saison prochaine. Elle a 15 ans, là. Par contre, 10 ans après Marie-Philippe Poulin, est-ce que les méthodes et les facilités d'entraînement améliorées par rapport à ce que Marie-Philippe avait il y a 10 ans quand elle aurait peut-être pu percer dans le junior majeur, est-ce que ça pourrait permettre à Primorano de se tailler un poste dans la Ligue junior
peut-être,
de
l'Ouest? Peut-être, c'est ça.
L'avenir nous le dira, mais il y a tellement d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais on dit qu'elle a une très bonne vision du jeu, un bon lancer, un bon coup de patin, évidemment, quand t'es repêché, c'est parce que t'as tout ça, là. Mais,
puis Marie-Philippe Poulin, était capable de suivre avec les gars, là. Dans Midget Espoir, elle jouait contact, il l'épargnait pas, là. Puis côté patin, aucun danger.
Ah, physiquement, t'es assez imposant.
Elle était très bonne dans le Midget Espoir. Je veux qu'on mette ça en perspective encore une fois. Elle était très, très bonne dans le Midget Espoir.
Ouais. Puis, les mentalités ont changé aussi, je pense.
Ouais,
ça commence à changer. Pas assez vite, évidemment, là, mais il faut juste qu'elle ait la même chance que les gars.
C'est ça, exactement
ça. C'est juste ça le but.
Puis peut-être en terminant, ça a été tough Tiger hier. Ça a été plus difficile.
Oui, ça a été pas pire la première 9 trous. Il était à 4 coups de la tête à un moment donné, mais ça s'est gâté sur le deuxième 9. La fatigue, la douleur à la jambe droite. On l'a vu après les coups de départ, là, vraiment en douleur. Et il l'a dit après sa ronde que sa jambe a déjà mieux été. L'important, c'était de récupérer parce qu'évidemment, il a subi des traitements pour être prêt pour la deuxième ronde d'aujourd'hui. Mais il a terminé à plus 4. Donc, il a joué 74. C'est 70, la normale, sur le terrain de Southern Hills à Tulsa, Oklahoma. Donc, il est à 9 coups de la tête qui est détenu par son partenaire de jeu, Rory McIlroy, qui lui a joué moins 5. Oh, oui. Il est en quête de son cinquième titre majeur. Et il y a deux joueurs qui suivent à un coup de la tête, Will Zalatoris et Tom Hogue. Il y a 3 golfeurs à moins 3. Le meilleur Canadien, c'est Adam Hadwin à plus 3, donc à 8 coups de la tête. Les favoris, Jon Rahm a joué plus 3, Scottie Scheffler plus 1. Ce sont les deux favoris du tournoi.
C'est Zalatoris, là, c'est un bon kid. Il a fini deuxième au Masters l'an passé. Il est souvent pas loin. Hein. D'après moi, ça sera pas long avant qu'il en gagne un.
Non, il va finir par percer.
Zalatoris.
Il va finir par percer.
Exact.
Juste vite, au tennis, c'était les tirages des tableaux principaux pour Roland Garros qui commence la semaine prochaine. Félix Auger-Aliassime va jouer contre un qualifié. Tu te dis, ah, parfait, un petit match facile en partant. Attends, un petit peu. C'est parce que le qualifié, il arrive avec 3 victoires en banque, là.
Okay.
Il y a un momentum, il faut faire attention. Il n'y a pas beaucoup de chaudrons qui jouent là-dedans. Alors, il faut toujours être prudent quand t'affrontes un qualifié. Denis Shapovalov va jouer contre un Danois qui s'appelle Holger Rune, 40e au classement de l'ATP. Également chez les dames Bianca.
C'est un Danois.
C'est
peut-être un Danois.
Merci.
C'est
une
histoire de chien.
Je travaille pas avec des gens de deuxième degré ben ces temps-ci.
Pas le vendredi. Moi, le vendredi.
Non, mais je cherchais le lien. C'est trop loin.
C'est un Danois.
Bianca Andreescu, elle, va affronter une qualifiée également. Et Leilani Fernandez va jouer contre la Française Kristina Mladenovic. tu joues contre une Française en France, jamais facile. Ouais. Elle est 110e au monde, Mladenovic, mais comme je disais, c'est jamais des mauvaises joueuses, mauvais joueurs. Et si jamais les deux Canadiennes se rendent en troisième ronde, elles vont s'affronter, Andreescu et Fernandez. Rebecca Marino joue actuellement, il faudrait que j'aille vérifier, je vais vous donner ça tantôt, mais elle joue aujourd'hui son troisième match de qualification, donc elle pourrait passer au tableau principal avec une victoire aujourd'hui.
Excellent, merci beaucoup Vez, très très bon tour d'horizon. Il est 7h09, vous écoutez Dupont le matin, vous êtes au 93, Steph, on vous le rappelle, qui va être de retour mardi, certainement, avec, d'après moi, une couple d'histoires à raconter. Là. D'après moi, c'était sa première visite à Paris.
Oui,
aussi,
absolument,
notre ami Steph. Sûrement avoir un paquet d'histoires de voyage à raconter, donc de retour ici dans Dupont le matin, à compter de mardi. Moi, je vais prendre ma case horaire habituelle. En passant, ça vous tente de venir faire un tour le midi? Il m'a plugué mon émission, hein? Pourquoi pas? Ça vous tente de venir faire un tour? On a bien du fun à tous les midis dans Trudeau-Landry, ici, au FM 93 avec Nico puis Alex Tétro. OK, bon début de week-end, courte pause et on vient.
93. Dupont le matin. En raison de l'excellente émission proposée par Jérôme Landry lundi matin dernier, nous avons décidé d'étirer jusqu'à vendredi.
Ça va passer quand même vite, là.
Voici un genre de deux minutes, mais pas tout à fait. Des nouvelles commentées un peu. C'est pas clair.
Justement, par souci de clarté, je vous rappelle que c'était par... c'était pas par mon excellence, c'était vraiment qu'on était low staff, ça. C'est pour ça que j'étais teasy toute la semaine, le matin. Ouais, un peu des deux, c'est ça.
Si t'avais raison. Trouvé vraiment pourri, t'aurais congédié lundi.
Oui, c'est ça, mais je vais être congédié à 10h. Je le rappelle là, pour ceux qui s'inquiètent de la situation. Puis on rappellera jamais assez que notre ami Steph va être de retour ici avec vous à compter de mardi matin. Autour de 6h, 6h15. En attendant, si ça vous tente, moi, je le suis, là, sur Instagram, les stories avec sa blonde et tout ça, avec Marie-Christine et tout ça. Puis, tu sais, il met beaucoup de photos. Une des choses qui est vraiment le fun à Paris, c'est sûr qu'il y a des, tu sais, les attraits touristiques, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris. Je sais qu'il est allé au Louvre aussi, j'ai vu ça. C'est les petits bistrots, les petits restaurants où tu t'assois sur le trottoir. Face à la rue, où tu regardes les gens passer, tu manges ton petit, souvent c'est du tartare de bœuf, là, que tu vas, avec un petit verre de vin rouge, ou, là, tu regardes les gens passer. Steph a posté quelques stories de ce style-là aussi. C'est un des grands, grands plaisirs de visiter cette ville-là. Je sais pas, il y a combien de restos dans cette ville-là, Karen, là?
Hey, bonne question.
Ça doit être des dizaines de milliers, sérieusement, là. C'est des dizaines de restos par rue de ce genre-là. Où tu t'installes avec le bon petit vin rouge. En tout cas, Steph va vous raconter ça à compter de mardi matin, bien sûr, ici, dans Dupont le matin.
On parlerait de près de 12 000, ça se peut-tu?
12 000? Ah,
mais ça, minimum. C'est juste à Paris.
Ouais, ça doit être minimum 12 000.
Plus de 18 000 qui se situent à Paris, aux alentours.
OK, c'est ça. T'sais, c'est à tous les coins de rue. T'sais, c'est vraiment très, très, très agréable.
Puis on disait qu'à Québec, il y en avait comme 1 000 la semaine passée. Il me semble que c'est ça qu'on se disait. On faisait la comparaison. Ouais. C'était incomparable, justement, là, bien sûr.
Ben non, c'est ça, il n'y a pas de comparaison, bien sûr. On a 10 degrés.
Ben, au prorata, on n'est pas loin certain.
Ouais, puis maintenant, on disait, rappelle-toi, Vez, il y a trop de restaurants à Québec. Là, c'est sûr que la pandémie a changé les affaires, là, mais...
On est la ville au Canada où il y a le plus de restaurants par habitant.
Ah, on est chanceux. Ça, c'est sûr, on est chanceux.
Ça, j'ai déjà entendu ça. Ça a peut-être changé,
ouais,
là, mais...
Ouais, puis pour la variété, tu sais, les bons restos aussi, on est chanceux, on est privilégiés à Québec,
ouais.
Là.
Ouais. Ah, oui.
Il manque peut-être, tu sais, je dis oui, un chanceux de variété. Il manque peut-être, tu sais, des restos. Tu sais, comme à Montréal, mettons, il y a un paquet de restos, mettons, afghans. T'sais, des types de restaurants dont...
Plus nichés un peu.
On a peut-être moins de ça ici à Québec, mais pour ce qui est
Mais ça s'en vient, Jérôme.
Ça s'en vient. Mais tu sais, cuisine française, cuisine du terroir à Québec, où on est chanceux en tabarnouche. On est très, 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 très choyés
mais
avec le choix qu'on a.
Le portrait va changer, là. Des restaurants, on peut peut-être dire qu'il y en avait trop à Québec, mais moi, je pense qu'on en a la preuve là, qu'il y en avait peut-être trop. C'est qu'en ce moment, parce que pénurie de main-d'œuvre, on est mal servi à beaucoup d'endroits.
Beaucoup
d'endroits. Puis honnêtement, moi, je l'ai déjà raconté à Steph, là, je peux te le redire à toi, Jérôme.
Ouais.
L'idéal, là, ce serait que tous les propriétaires de restaurants de la Ville de Québec se mettent ensemble et disent « Bon, ben moi, j'ai plus de staff, toi, t'as du staff, on va se mettre ensemble, toi, tu continues, moi, je continue pas. » Mais ça arrivera pas, on s'entend, puis on s'entend. Là,
c'est laisses aller le marché.
Je comprends très bien ça, c'est un gros raccourci. Mmh. Mais quand tu laisses aller le marché, ce que je dis là va s'opérer en 5 ou 10 ans. Ouais. Ça veut dire que dans les 5 prochaines années ou dans les 10 prochaines années, tu vas avoir des faillites. T'as des restos qui vont fermer parce qu'il n'y a pas de staff. Du staff, il n'y en aura pas plus. La crise de main-d'œuvre, c'est pour des années
encore.
Ça
va durer un bout, c'est ça.
Alors, tu sais, une nouvelle offre, oui, mais au détriment de quoi? Tu sais, c'est dur d'être bien servi en général.
Mais moi, là, Pierre, je comprends ton point puis ça, mais moi, là, être mal, ça dépend c'est quoi être mal servi. Moi, là, si tu me dis en arrivant, là, monsieur, on s'excuse, là, on est low staff aujourd'hui, ça va être un petit peu plus long. C'est-tu quoi? Je comprends. C'est-tu quoi? À la limite, ça fait quasiment mon affaire.
OK. Moi, j'ai pas.
Je vais étirer mon souper un petit peu plus. Toi, t'es plus peut-être le genre à souper rapidement, peut-être. Moi, j'aime ça m'étirer. Il y a rien que j'aille de plus qu'un service qui est trop rapide aussi, là. Tu sais, comprends-tu? Moi, tu sais, l'autre fois, je suis allé dans un restaurant, puis je pense que c'était peut-être le manque d'expérience de l'employé qui était là.
Elle nous voir cinq fois en deux minutes,
maintenant. Ben, c'est que, écoute, j'étais à peine assis qu'elle me demandait qu'est-ce que je voulais comme apéritif. Tu sais, comprends-tu? Puis moi, j'aime ça m'asseoir au bar, prendre mon temps, garder le menu, choisir mon apéro et tout ça. Puis là, écoute, j'ai failli dire, regardez, madame, je vais m'asseoir. Puis après ça, m'a regardé la liste des apéritifs, des apéros, puis je m'en vais le dire après.
M'a prendre la pression, je vais savoir ce que j'ai le goût de boire.
Puis je pense que c'était pas de la mauvaise volonté. Je pense que c'était vraiment qu'elle avait peut-être pas l'expérience. T'sais, elle pensait peut-être que j'étais pressé ou qu'on veut un service ultra rapide ou tout ça. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop rapide, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais être plus porté aussi, peut-être, quand le service est un petit peu plus lent, à accepter ça. Mais moi, même en temps normal, avant la pandémie, si tu me le dis, aujourd'hui, monsieur, c'est un petit peu plus difficile. Sachez que ça va être un petit peu plus long dans la cuisine. Pas de trouble avec ça. C'est quand on fait semblant que tout va bien, là.
Ah non, ça, c'est...
Et que là, on s'occupe pas de toi, puis là, le serveur passe devant toi, puis il veut pas trop te dire que ça va mal. Là, j'ai un petit peu plus un problème.
Mais c'est parce qu'on le sait pas. On sait pas pourquoi. Si tu l'expliques, et on comprend actuellement parce que bon, c'est généralisé, là, partout, ils cherchent du monde. Ouais. Fait qu'on le sait, dans ce temps-là, tu relaxes un peu plus et tu dis juste, amenez-moi à boire, là, puis je vais être patient.
C'est ça. Très bon point. Quel bon point, c'est ça. C'est le meilleur point de la semaine.
Tenez-moi hydraté, puis ma patience va suivre.
Exactement ça, tu sais. Puis moi, j'ai pas de trouble avec ça. C'est juste que le problème dans ce temps-là, c'est que la facture monte, on va être obligé de prendre un petit peu plus de vin. Et puis,
ben, c'est bon pour le restaurateur. Quand
c'est
la facture,
bon pour le restaurateur,
puis,
c'est bon, ça. C'est
plus
ça.
De type, etc.
Mais tu sais, j'aime pas ça être stressé puis pressé dans un resto aussi, tu sais.
Que
j'aime
ça vous est arrivé dernièrement? Parce qu'il y a beaucoup de restos qui font deux services.
Ouais.
Et tu arrives à 18h, puis à 20h, il faut que tu sois parti parce qu'il y a une autre table qui arrive.
Mais ça, là, Karen, là, d'habitude, avant la pandémie, j'avais pas beaucoup de tolérance pour ça. Tu sais, la personne qui, tu sais, t'appelle pour réserver puis elle te dit, OK, monsieur, 19h, mais vous devez avoir quitté à 21h. OK, premièrement, tu me connais très mal. Si tu penses qu'à 21h, je vais avoir quitté, tu me connais très, très mal.
Surtout si tu manges la fondue.
Ben, c'est ça, la fondue, Pierre.
Ben, c'est pour deux semaines.
Mais je suis un peu de même dans tout. Mais deuxièmement, ça veut dire que tu veux déjà me mettre dehors. Je suis même pas arrivé encore, là. Je suis même pas... Puis là, tu penses déjà me mettre dehors. Mais avec la pandémie, on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas eu le choix d'accepter
de
ça.
De rentabiliser les
restaurants. Et ça, je chiale plus. Tu sais, je peux comprendre là, l'histoire des services. Premier service, deuxième service.
Mais on n'était pas habitué à ça, à Québec.
Non, puis j'aimais pas ça avant. Là. Ça te dérangeait pas avant, toi? L'histoire
non.
Du premier service, deuxième service, parti à 21h?
Je le voyais beaucoup moins parce que c'était moins répandu dans les restos de Québec.
C'était moins répandu, mais ça existait. Puis moi, si tu voulais me mettre de mauvaise humeur, là, mets-moi dehors avant que je commence à manger. Ça, c'est sûr que je suis de mauvaise humeur. Puis tu sais, commence pas à sacrer, je suis pas impoli, là, tu sais, puis tout ça, mais...
Non, mais
pas
on se sent un petit peu attaqué, là.
C'est ça. C'est que je me dis, tu veux pas que j'étire un peu, là, parce que moi, si je décide d'étirer les digestifs, m'a prendre tes aides ou ma blonde va conduire, pas de trouble avec ça, là. Prendre des digestifs, puis étirer ça. Un souper de 2h30, 3h, là, dans un bon resto, moi, j'ai aucun... Puis c'est chacun. Il y en a, je sais qu'il y en a qui aiment ça manger plus rapidement, régler ça vite, puis moi, je suis
tellement... Il y en a qui aiment pas manger aussi, Jérôme.
Non, c'est ça. Il y en a qui... Ouais, c'est ça.
Il y en a que c'est utilitaire, là.
Mais c'est rare qu'ils vont dépenser, mettons, 225$ pour un souper le samedi soir. Ceux
effectivement.
Qui n'ont pas mangé, tu sais, ceux qui n'ont pas ce plaisir-là, c'est rare qu'ils vont booker un resto aussi comme ça, dans ce genre-là. Une affaire qui me tannait aussi, c'était, mettons, « Hey, monsieur, on a assis une belle table tranquille pour vous, là. Venez-vous-en, on va vous amener. » Puis là, t'es en face des toilettes. Ça, c'est l'autre affaire, moi, je dis non.
Ça, c'est tranquille.
Ah, ça, c'est tranquille. Mais moi, si tu me donnes une mauvaise table... Puis là, c'est exceptionnel. Là-dessus aussi, je vais être pas mal plus conciliant. Mais si tu me donnes une mauvaise table, tu sais, moi, j'aime ça être au... Je suis ma mère, moi, tu sais, moi, j'aime ça. J'aime ça voir tout le monde. J'aime ça être au milieu. Pas que...
Tu veux pas te faire voir?
Non, c'est pas de me faire voir. C'est que moi, j'aime ça regarder puis voir ce qu'il y a autour, tu sais.
J'aime ça me mairer.
Ouais, j'aime ça me mairer. Fait que si tu me mets dans le coin côté de la salle de bain.
Tu peux pas me mairer.
Non, c'est ça. J'aime pas ça. Ça se peut, je te dis, je m'en vais ailleurs. Tu sais, je me mets jamais.
Tu peux entendre des affaires intéressantes.
Ouais, mais c'est plate.
Des fois.
Non, mais tu sais, tu payes 275 pour un souper avec du vin. Là, t'es comme dans une ambiance poche. Tu sais, c'est pas.
Ben, il y a encore là, ben des restaurants où il y a des tables proches des toilettes.
Il y en a une. Et il t'offre un rabais, c'est au Cochon d'Inde à Le Bourgneuf.
Il y a un rabais?
Oui, c'est la pire table.
Un rabais toilette.
C'est inscrit, là. Il y a une petite pancarte. La pire table du restaurant, on vous offre 10% sur votre facture.
C'est j'aime ça, moi, comme conseil.
Ah, j'aime ça.
Ça
ben
fait
oui,
des
c'est
années
bon.
Que c'est là.
Ah, ouais.
Ouais, j'ai jamais réussi à l'avoir. Mais quand t'as réservé d'avance et que tu te ramasses avec une très mauvaise table, ça, c'est encore plus insultant que si t'arrives comme un cheveu sur la soupe et c'est la dernière table.
Ben, c'est ça. Mmh. Ça dépend de la situation. Ouais. Tout dépend du contexte aussi. Tu sais, t'arrives à la dernière minute, pas réservé. Regarde, on a peut-être une table pour vous. Ça, c'est une autre affaire. Ça, je suis d'accord avec toi. Là. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est les plus petits restos où tu vois le staff faire la cuisine. Ça, là, tu sais, le style Cendrillon, puis tout ça. Puis au district aussi, à Sainte-Foy, ils font ça aussi. C'est un peu ça le concept. Tu t'assois autour du bar, puis tes voix.
J'adore
tes voix très, tu jases un peu. Ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment le fun. Pourquoi on parlait de restauration? Ça, je vais être quoi d'important à dire? C'était quoi, non? On partait de où, là, pour parler de ça? Ouais, je me souviens pas.
Depuis quand quelqu'un a quelque chose d'important à dire dans ce show-là?
On s'en rappelle plus, hein. C'est ça. On part, puis on s'en
rappelle plus. On a parlé de main d'œuvre.
On
a parlé.
Ouvert ton journal.
D'arriver, d'être servi trop tôt.
Ouais, c'est ça. En tout cas, ça va peut-être me revenir. Je sais pas. Mais, tant qu'à parler de bouffe aussi, il y a beaucoup de pénuries, toutes sortes d'affaires. Là, ça a l'air qu'on s'enligne peut-être vers une pénurie de beurre qui va occasionner une pénurie de chocolatine et de croissants. Je sais pas ce que vous êtes en train de manger à matin. Je sais pas si vous êtes plus toast au croton avec de la moutarde ou encore chocolatine
moutarde
ou croissant.
Moutarde le matin,
oui. Il y en a.
Ah ben oui.
Toast croton avec la moutarde, ça existe. Oh oui, ça existe.
Ah non, ouais, c'est le mix, c'est délicieux. Mais, tu manques quelque chose.
Ça peut être bon.
Psychologiquement allergique à la moutarde. Moi, c'est non, la
moutarde. Une moutarde baseball.
Moutarde.
Non, aucune moutarde.
Rien de moutarde.
OK.
Alors, au début du segment, on parlait de Paris et les restaurants à Paris.
Ah, c'est ça. Voilà, merci, Pierre, de suivre la game.
C'était peut-être ça. En passant, par
texto.
Il y a un auditeur qui nous écrit au 25-226, 275 pour un support resto calvaire, la misère des riches. Excusez, là, mais de monter à 275 au resto, c'est de plus en plus facile, là.
C'est plus facile à faire monter la facture, facile à payer, pas pour tout le monde. Là.
Ben non, elle est pas facile à payer, mais c'est facile à faire monter vers, t'es-tu d'accord?
Oui.
Si tu te ramasses dans un restaurant, présentement, là, certains restaurants, entre guillemets, familiaux, là, tu peux monter à 150 assez vite, là. Pas dans la grande gastronomie. Le moindrement que tu prends de l'alcool aussi, c'est sûr que moi, je prends
du vin. Tu vois une famille de 5 chez McDo, là.
Ben, c'est ça.
On pas en bas de 50.
Ben non, c'est ça. Même McDo.
C'est 10$ par personne maintenant, là.
Ben, c'est ça. Fait qu'un bill de 275, mettons, avec le tip, les taxes, puis tout ça, dans un resto où tu vas, mettons, le samedi soir, c'est pas dur. T'as pas besoin d'exagérer.
Non, mais c'est quand même une grosse soirée. C'est pas tout le monde qui se permet ça, là.
Non, c'est pas toutes les semaines.
Non, mais comprends-moi bien la différence entre les deux. C'est pas toutes les semaines de 1. Puis de deux, je te dis pas que la facture est le fun, là.
C'est ça.
Je te dis pas qu'elle est facile à payer.
Ah, mais d'atteindre ce chiffre-là.
L'atteindre, ça, c'est facile, on dit, là. Le moindrement que tu prends un apéro, du vin, des entrées, t'es rendu à 275. C'est facile. Dans plusieurs restos. T'as besoin d'être garoché dans le caviar pis dans une bouteille de champagne, là, pour monter à 275 pour
deux assiettes brunch, c'est facile de topper 60$, là.
Ouais.
Ben, c'est ça. Même des déjeuners.
J'ai plus déjeuné, malheureusement, à cause de ça.
C'est quoi, j'ai slacké, moi aussi, puis ça me fait de quoi?
Moi aussi, j'aimais tellement ça.
Tu sais, puis dans l'ensemble dans l'ensemble aussi de la patente, là, je vais un petit peu moins souvent au restaurant. Puis si tout le monde fait ça, c'est là que ça va finir par paraître aussi pour les restaurateurs, malheureusement. À cause du prix. Tu sais, je veux pas me plaindre, là, mais c'est.
Ben, c'est pas une question de se plaindre. C'est une question de ce que t'as dans les poches, Jérôme.
Exactement.
Je veux dire, à un moment donné, il y a la réalité. On veut bien les garder tous ouverts, les restos, mais c'est parce qu'il faut qu'on contribue tous au pot commun, à un moment donné.
Ben, c'est ça. Tu sais, un souper sushi, mettons, là, à deux au resto, bouteille de vin, là. Puis là, je vous dis pas, je vous dis pas que le vin est obligatoire, nécessairement, mais souvent, tu sais, si tu vas.
Il y a souvent ça avec, là.
Ben, si tu vas au sushi, souvent, on va prendre une petite bouteille de vin, hein. On va prendre peut-être un petit apéro, tu sais, tant qu'à sortir au sushi. En bas de 150, bonne chance, là. Bonne chance. C'est un peu ça, la réalité. Bref, je reviens à la pénurie de chocolatine et de croissants. Je viens de comprendre pourquoi c'est bon, des croissants. C'est qu'il y a comme un beurre qui est plus gras là-dedans. Puis c'est un article du Journal de Québec ce matin, là. Il y a comme un beurre qui comment il y avait ça, ce beurre-là? C'est le beurre, j'essaie de retrouver le mot, là. C'est le beurre, voyons, tabarnouche, c'est un beurre qui est plus gras, du beurre de tourage. C'est du beurre de tourage, qui est comme plus gras pour faire les croissants et les chocolatines. Le beurre ordinaire, ça fait pas. Ça a de l'air à lire les pâtissiers qui sont dans le journal le matin, là.
Fait que, non, là le beurre ordinaire, tu le rajoutes.
tu le rajoutes par-dessus.
Avec du beurre.
Tu rajoutes une petite couche de gras vaise encore plus.
Un peu. Oui.
Fait que c'est du beurre, ça a l'air qu'il s'achète en France. Puis là, il y a comme une pénurie. Puis là, c'est le gars de la boulangerie Fleur de Farine à Saint-Alexandre de Kamouraska qui raconte ça ce matin qu'il n'y a plus ce beurre-là. Fait que là, il est plus...
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Faire ses croissants. Ça va bien, hein? Ça va très, très bien, l'approvisionnement dans plusieurs domaines. On devait faire une météo, là. On devait jaser un petit peu météo. 9 degrés présentement sur Québec. Maximum qui va être autour de 22, probablement vers la fin de l'après-midi avec alternance de soleil et de nuages. Et le portrait pour les 3 prochains jours, parce que plusieurs vont profiter du week-end de 3 jours en fin de semaine. Samedi 26 avec 90% de probabilité d'orage, mais souvent on peut peut-être avoir des moments quand même intéressants à l'extérieur. Et dimanche aussi 90% de probabilité d'orage avec 21 et lundi 17 avec soleil et nuages. Quelques manchettes avec Pierre et Karen.
Ouais, opération policière qui a eu lieu hier vers 17h à Saint-Apollinaire à l'usine de portes et fenêtres Altec sur la rue Industrielle. C'est un individu qui tenait des propos menaçants. Le bâtiment a été évacué. Plusieurs maisons aux alentours aussi qui ont été évacuées. On craignait que l'individu soit armé. Les rues aux alentours qui ont été fermées. Finalement, les policiers ont retrouvé l'homme après 90 minutes de recherche. C'est à proximité de l'usine qu'ils l'ont trouvé. Finalement, il n'était pas armé. Il a été conduit à un centre hospitalier. Et on ne sait toujours pas si des accusations seront portées dans ce cas-là.
Et la Cour suprême qui sera prête à se prononcer dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, ce sera vendredi la semaine prochaine, donc le 27 mai. C'est relativement simple la question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce qu'on peut additionner ou pas les peines dans le cas de meurtre multiple? Vous savez qu'Alexandre Bissonnette a tué 6 personnes à la tuerie de la Grande Mosquée de Québec. Là, je ne vous ferai pas la grande histoire. Mais voilà, la Cour suprême, puis on se posait la question hier, effectivement, c'était la deuxième. Ce sera la deuxième fois lorsqu'ils vont venir à Québec à l'automne. Et ils étaient venus il y a 2 mois à Québec pour entendre cette cause-là. Ça avait été bien couvert. Le juge Richard Wagner, même, qui avait pas tout à fait caché son jeu. Là, tu sais, si on avait à faire une prédiction ce matin pour la décision, c'est qu'il y aura pas de cumul des peines.
Je suis d'accord avec toi. Puis pas que je suis contre le cumul des peines. Moi, en principe, tu sais, les peines à l'américaine, dans des cas comme ça, moi, personnellement, juste mon opinion à moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça.
Mais le juge Wagner avait dit que les peines consécutives pouvaient plaire à la galerie, mais constituaient du vaudeville.
C'est moi la galerie, ça veut dire? Plaire à la galerie, c'est ça. Je suis pas mal à la galerie, moi, puis oui, ça me plaît, effectivement.
T'es du bois traité, Jérôme.
Ouais, mais c'est pas canadien, ça. Tu sais, comment tu veux dire? C'est pas dans la mentalité canadienne, le système.
D'abord
canadien.
Et avant tout la charte.
Ouais, puis la réhabilitation. Tu sais, notre système judiciaire, le droit criminel est basé sur une chance de réhabilitation et les peines consécutives permettent pas ça. Fait que je suis très d'accord avec toi, Pierre.
Ceci dit, ça reste la prison à vie pour Alexandre Bissonnette. Là, ça, c'est clair. C'est la possibilité de demander une libération conditionnelle.
Ça, c'est le bout qu'on oublie des fois. Puis des fois, moi, le premier, parce que je fais partie de la galerie, comme disait le juge Wagner.
On dit, il va pogner 25 ans, mais...
C'est des peines à vie, c'est ça. Mais la réalité, c'est que souvent, ils vont sortir avant 25 ans. Ouais. Des fois, ils vont même sortir avant. Là, c'est moins facile, je pense, de sortir avant. Mais souvent, ils vont sortir après 25 ans. Mais ça reste quand même des peines à vie. Puis ça se peut que Bissonnette, ils ne sortent pas dans 25
Absolument.
Ans.
Absolument.
Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si, par exemple, après 25 ans, tu as ta libération conditionnelle, tu ne peux pas aller à plus de 50 km de chez vous là, sans te rapporter à ton agent, etc.
C'est ça.
C'est pas une free ride.
Tu es présumé détenu, mais bon, c'est sûr que tu n'es plus en prison.
Oui.
Ceci dit, tu peux
la demander.
Ouais, ça veut pas dire que tu l'obtiens.
C'est ça, exact.
Ouais. Bon, ceci dit, en première instance, faut se rappeler de comment ça s'était passé. En première instance, le juge Huot avait donné une peine de 40 ans. Il était pas allé à 25, il était pas allé à 50, il était pas allé à 150. Il est allé à 40 pour cumuler les peines, mais donner un espoir de sortir ou de réhabilitation à Alexandre Bissonnette. Est-ce que le juge Wagner et la Cour suprême aujourd'hui, vendredi prochain, pardon, lorsqu'ils vont se prononcer, pourrait retourner exactement à ce jugement-là?
Peut-être.
Ça sera à voir, c'est pas impossible.
Puis lui, il avait même réécrit un article du Code criminel, le juge Huot. Puis connaissant le juge Huot, pour l'avoir vu plaider, en fait, pendant des années, si lui a fait ça, là, c'est pas parce qu'il s'est levé le matin en disant « Hey, j'ai le goût de faire ça aujourd'hui ». C'est parce qu'il y avait... Je pense que c'est un avocat là qui était extrêmement compétent. Je vous le dis, là, François Huot. Moi, je me souviens à l'époque, quand je travaillais au palais de justice, il y a des gens, des fois, on jasait, ils me disaient « Hey, qui t'engagerait, toi, si t'étais dans la merde de sortir de la main? » François Huot, anytime. Okay. Je te dis, là, c'est un gars qui a une connaissance du droit... fait longtemps que j'ai pas vu, là. Je couvre plus le palais de justice. Mais s'il a décidé de faire ça, lui, cette fois-là, là, c'était pas juste une intuition, là. Non, pis. Dis, là, il y avait quelque chose derrière ça, c'est clair.
Parce que là, ce que ça nous permet, là, parce que, on s'entend, la première instance, ça aurait probablement dû être soit 25 ou soit 150. Ouais. Mettons, on s'entend, là. S'il avait décidé ça, quelle aurait été la cascade après ça en cour d'appel et ensuite éventuellement en cour suprême? Alors que là, j'ai l'impression qu'il a court-circuité une première décision en allant, lui, avec une décision qui n'était pas celle qu'on attendait. En allant à 40 ans, est-ce que ça nous permet de revenir là à 40 ans? Je repose la question, j'ai pas de réponse pour vous, ça sera dans une semaine.
J'ai hâte de voir. Ben, ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont... la Cour suprême risque de ramener ça à la
à une seule peine de 25.
Ouais, ouais, ouais. C'est la tendance est à ça, tu sais, c'est en tout cas, je peux me tromper, on présumera pas de la décision, c'est quand même la Cour suprême hein, qui sommes-nous pour ça. Ben, si tu es la Cour suprême.
Nous sommes la galerie.
Nous sommes la galerie exactement, si on est bien sa galerie. Ouais, tu es bien sa galerie,
ah, oui.
Bien.
On peut se bercer.
Bercer sa galerie tranquille.
C'est une histoire qui s'est passée un peu plus tôt cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de t'en parler hier, donc je reviens avec ça aujourd'hui parce que ça va frapper l'imaginaire. Quand même, un homme dans la quarantaine qui n'avait pas le droit de conduire pour des raisons médicales, qui a été victime d'un accident. En fait, lui a fait une crise d'épilepsie au volant à Lévis. Ça s'est produit mercredi après-midi vers 15h30. Il circulait sur Président Kennedy dans le secteur de Pintendre quand sa crise s'est déclenchée. Donc, plus aucun contrôle de son corps. A perdu la maîtrise de son véhicule près du McDonald's. Heureusement, il a fait aucun blessé, a percuté un poteau. Mais ça nous rappelle l'histoire du boulevard Laurier. Et ce qui est important de savoir dans ce cas-là, c'est que l'homme dans la quarantaine n'avait pas le droit de conduire parce que sa situation médicale lui interdisait. Il y avait trop de risques de faire une possibilité de faire une crise d'épilepsie au volant. C'est ce qui s'est passé. Donc, il a été reconduit au centre hospitalier pour y recevoir des soins, mais le dossier a été soumis au DPCP pour conduite dangereuse.
Ah ouais, OK.
Ouais,
c'est
ça. Jonathan Falardeau-Laroche sur le boulevard Laurier, dans le cas de Marie.
La jeune femme qui était décédée. C'était une jeune femme enceinte, ça.
Oui, elle devait accoucher. Elle était à terme et le bébé a survécu. Oui,
c'est vrai. Triste histoire.
Ça a brassé hier, dans le journal Le Québec, on écrit à l'hôtel de ville de Sainte-Foy. C'est à l'édifice André P. Boucher, mais c'est l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, faut bien comprendre. Il y a un citoyen qui a été expulsé de la salle par la police. Mais là, vous vous dites, coudon, y a-t-il un gala de boxe, un gala de lutte ou quelque chose? Non, c'était une soirée de consultation sur le tramway.
Méchant cirque, sérieusement. J'étais pas là, mais à lire la description de Taïeb Moila ce matin dans le journal de Québec, c'était plutôt un cirque, là, cette affaire-là.
Il y a des militants anti-tramway qui ont crié leur mécontentement. On a interrompu la séance pendant une quinzaine de minutes pour calmer tout le monde. Finalement, ça n'a pas eu d'impact ben. Puis finalement, il a fallu calmer les gens tout le long de la séance, à peu près. Il y a Anne Guérette qui était présente également l'ancienne conseillère municipale pour parler de l'avis public qui avait été publié pour la séance d'hier soir qui ne prévoyait pas la longue présentation à laquelle on voulait assister. Alors Anne Guérette a dit les gens sont venus parler du règlement qui peut conduire à des expropriations, à des remplacements d'escaliers, de balcons également. On essaie de leur parler de la tapisserie du tramway et de leur donner moins de temps possible pour intervenir. Ça n'a pas été une soirée qui a fait l'unanimité. D'ailleurs, veux-tu entendre comment ça s'est passé?
On va donner le crédit à notre collègue Taïeb Moila du Journal de Québec qui a publié une vidéo là, d'un monsieur. Ça a pris la police pour sortir le monsieur de la salle hier où il y avait cette consultation-là.
Vous avez quitté la salle, monsieur. Vos cours ne sont pas acceptables. On est dans
une salle publique. Monsieur, c'est la mobilité résumée.
Je connais le principe, faites-vous en pas. Puis il est escorté par les policiers en train de passer la porte de l'Assemblée nationale, mais l'hôtel
chic,
de ville à Sainte-Foy.
C'est pas chic quand tu vois ça, là, tu, la police qui sort quelqu'un.
Les doigts d'honneur.
Puis, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis je suis pas en train, je veux surtout pas donner raison à ceux qui transforment cette séance-là en cirque. Là, à un moment donné... Faut rester calme aussi. Tu sais, t'as beau être contre le tramway, t'as beau être... Puis il y a des gens, je sais pas lui, ce monsieur-là, mais tu sais, il y a des gens qui sont directement touchés. Tu sais, c'est facile d'être pour le tramway puis pour le tracé quand ça te touche pas directement. C'est ça, tu sais, les gens qui vivent, entre autres, le long de René Lévesque ici, là, qui, tu sais, qui vont voir leur entrée amputée, qui vont voir un trottoir qui va quasiment embarquer sur leur propre balcon, puis des gens qui vont circuler à quelques mètres à peine de leur résidence parce que le tramway va prendre tellement de place que les piétons vont être déplacés, vont se retrouver très, très proches des maisons. Tu sais, c'est facile de dire, oh oui, c'est un beau projet, tatata, quand toi, ça te touche pas. Mais en même temps, je pense qu'il va tous falloir un peu se calmer les nerfs, là, commencer à péter des coches au point où la police doit te sortir. Tu sais, c'est, mais, il y a quelque chose qui marche pas dans la façon de faire de la ville, à mon avis. Quelque chose qui fonctionne pas, tu sais, pour qu'on en arrive là, qu'il y ait autant de tensions puis d'émotions. Tu sais, pensez à ça, la police qui intervient dans une consultation sur un tramway, tu sais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas effectivement, sans avoir été là hier dans la façon dont la ville consulte les gens, là. Il y a peut-être pas assez place, il y a peut-être, tu sais, c'est des deux bords, là. Il faudrait peut-être laisser un petit peu plus de liberté aux gens de s'exprimer, peut-être un petit peu plus de temps de parole. Mais les anti-tramways, vous gagnez rien non plus à faire des parages comme ça hier, là, au point où on se fait sortir par la police. Là, hein. C'est ça, on vit en société. Mais là, qui dit que c'est la seule façon de se faire entendre.
On entend ça dans les manifestations violentes, beaucoup comme argumentaire. Là, on entend souvent ça. Mais...
Non, ça discrédite le discours bien plus.
Ouais. Mais je pense que la ville a son bout à faire aussi. Ça va prendre un petit peu plus d'écoute. Mais en même temps, on a l'impression que tout est réglé. On a l'impression que tout est fait. Puis c'est le bureau de projet qui mène. Puis envoyez, on s'en va par là. Puis on a l'impression que ces consultations-là sont peut-être un peu inutiles actuellement. Là. Oui, Karen.
La coroner Jeanne Kamel qui a présenté hier son rapport.
Es-tu bonne, elle? Incroyable.
Elle a eu des gros dossiers cette année.
Oui, très gros dossiers.
Pour vrai, là, dans sa cour, tout ce que vous avez entendu, que fait les manchettes, c'est elle qui... Je pense à la fillette de Granby, je pense au drame de Saint-Apollinaire, c'est elle qui a dû se pencher là-dessus. Donc, Jeanne Kamel qui a déposé son document qui contient 23 recommandations pour éviter d'être confrontée à nouveau au même scénario si on avait une autre crise sanitaire. Pour elle, il est clair que toutes les instances ont failli à protéger les personnes hébergées dans les 7 CHSLD sur lesquels son enquête s'est penchée. Et surtout, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'elle estime que son rapport n'est pas suffisant pour comprendre l'ensemble de ce qui a pu se produire, qu'il faut poursuivre l'analyse. Donc, ça suggère quand même une enquête publique.
Elle, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'elle suggère qu'il y ait comme un genre d'autre tour de roue. C'est une autre procédure où on va en apprendre un petit peu plus avec des témoins, puis aller un petit peu plus loin. Puis ça, écoute, moi, l'enquête publique, je suis pas contre. Là. C'est juste que on n'a pas le droit d'attendre la fin d'une enquête publique. Je le sais que l'opposition veut une enquête publique. Les chroniqueurs politiques veulent une enquête publique là-dessus. C'est du bon contenu, c'est intéressant, puis tout ça. Je ne suis pas contre, OK? Mais on n'a pas le droit d'attendre. Tu sais, mettons qu'il y a une enquête publique, là, Karine. Là, une enquête publique. Parfois, on nomme là... qui qu'on pourrait nommer, la commission d'enquête publique là-dessus? Qui que les gens aiment? Là,
Stéphane.
Stéphane Dupont.
Ouais, ça va voler avant la fin de l'enquête, je pense.
Ça pourrait être, je sais pas, moi, Jonathan Trudeau. Non, on voit pas, ça sera pas quelqu'un des médias. Docteur Marquis, tiens. Tout le monde l'aime. Quelqu'un qui l'aime pas, le docteur Marquis, là. Tu faut être.
Quelques un peu de mauvaise foi, sûrement.
Mettons qu'on prend le docteur Marquis.
Exactement ça. Donc, la commission Marquis. Fait que là, tu nommes ça, ça dure 2 ans. Combien de temps, d'après toi, avant d'avoir un rapport des recommandations de ça, là, toi, là?
La puis des actions?
Ben, ça peut être long, puis mais actions, si on regarde le rapport Laurent, ça n'a pas été si long que ça quand même, puis on a vu des choses se faire. Mais le point est, selon moi, avant même l'enquête publique, on sait qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Est-ce qu'on peut régler ça, puis en faire une en parallèle?
Ben c'est ça, tu sais, c'était systémique, tu sais, ça datait d'avant la pandémie, les problèmes dans les résidences pour personnes âgées, tu sais. Moi, c'est juste ça que je veux. Faites-en une enquête publique. Mais je dis ça, mais en même temps, la CAQ, je pense pas que le gouvernement va en ordonner une enquête publique. Je serais très surpris malgré la recommandation. Quoique, je l'ai trouvé qu'elle était tellement punchée hier. Mais tu sais, je donne juste un autre exemple, Pierre. Je sais pas si tu as vu.
Mais
si
le gouvernement va lever la main et va dire, de toute façon, on a déjà commencé la grande refondation du système et tout
exactement
ça.
Exactement.
D'ailleurs, eux autres, ils n'ont pas tout à fait le droit de prendre des vacances, me semble, cet été. Là. Quand tu commences une refondation du système, tu n'attends pas 3-4 mois avant que ça s'enclenche. Tu l'as dit, là. Tu peux pas attendre.
Sérieusement, là, c'est un des points de désaccord que j'ai avec mon collègue Stéphane Dupont ici, là. Moi, je pense que Christian Dubé, des vacances, il n'en prendra pas bien cet été. OK? Des fois, j'entends Steph dire qu'il est donc bien pas bon, pis ci, pis ça.
Il l'aime pas beaucoup.
Il l'aime pas beaucoup, mais je comprends pas pourquoi. Faudrait peut-être que je lui demande. On s'en parlera peut-être autour d'une bière. Puis il a bien le droit, là. C'est bien correct. Mais à mon avis, Christian Dubé est un des très bons ministres de la Santé qu'on a eu. Un des très, très bons ministres de la Santé. Pas sûr qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je suis pas sûr qu'il peut faire tous les changements que lui souhaiterait apporter. Mais moi, je le trouve pas mal meilleur que ceux qui sont passés avant Christian Dubé comme ministre de la Santé.
Ce que tu dis, c'est que les animateurs du 93 n'ont pas de réunion avec la haute direction de Cogeco pour savoir dire toute la même affaire.
Non, il n'y a pas de réunion prévue pour le narratif. Là.
Le narratif. Radio vendue, radio subvention. On n'est pas ça, nous autres, finalement.
Il y a beaucoup plus de désaccords que vous pensez. Puis ça, vois-tu, moi, quand j'entends Steph dire ça, les oreilles me frisent. Parce que je trouve que Christian Dubé, pour une rare fois, j'ai l'impression d'avoir un gestionnaire qui, premièrement, lui a pas besoin de ça pour vivre, gagner d'un 6 chiffres, lui, à Caisse de dépôt, le Christian Dubé. Puis j'ai l'impression que ça y tient à cœur pour vrai, qu'il y a une sincérité. Est-ce qu'il va réussir à mener toutes ces réformes? Est-ce qu'il est parfait? Non. Moi, je connais pas personne de parfait. Il y a encore moins de politiciens parfaits. C'est sûr qu'il y a sûrement des faiblesses. Mais comme leader, comme administrateur, d'essayer des affaires puis d'essayer de faire changer les choses. Moi, je sens que Christian Dubé veut amener quelque chose. Je sens que Christian Dubé va aller quelque part avec...
C'est-tu le prochain chef de la CAQ?
De santé. Non, je pense
non,
pas.
Non, Simon Jolin Barrette, selon moi, est le dauphin de...
Intéressant.
Tu penses? Moi, je verrais...
Madame Lebel, Madame Guilbeault.
Madame Guilbeault, Madame Lebel.
Madame Lebel aussi. Madame Lebel.
Plus que Madame Guilbeault. Ces quatre noms-là, moi, je pense que ces quatre noms-là sont dans le chapeau, moi, je pense.
Ces noms-là sont toutes, ces noms-là sont toutes dans le chapeau.
François Legault va être candidat, bien sûr, à l'élection à la prochaine, mais après ça, dans quatre ans.
L'autre après, il y en a plusieurs qui vont vouloir s'essayer, là. Ouais, c'est ça. Mais on est pas mal dans les bonnes, d'après moi, on est pas mal dans les bonnes. Mais tu sais, je reviens au système de santé. Premièrement, Mme Kamel, c'est mon idole. Je l'écoutais hier, là. Pas de cassette. Tu sais, le maudit discours de cassette, de discours de politicien ou dont on veut pas trop. Elle, là, je l'écoutais hier dans son discours. Elle ménage pas personne. Elle a pas peur de personne. Puis, tu sais, dire les vraies affaires, là, c'est une expression qui est extrêmement clichée. Mais c'est ce que je ressens de la coroner Gamel. Sérieusement, c'est tout un travail qu'elle a effectué. Puis, tu sais, quand je dis qu'il y a des problèmes qui sont systémiques puis qu'on doit pas attendre une enquête publique et un rapport, je sais pas si vous avez vu hier, je l'ai retweeté, là, c'est une journaliste de la presse du nom de Isabelle Massé qui a tweeté un souper servi dans un hôpital de Montréal à un patient.
Oui.
T'as vu ça, Karen?
Oui, on dirait un livre de beurre.
Ah, c'était dégueulasse. À 16h40, je crois que c'est un savon qui accompagne les pommes de terre et les petits pois verts. Je l'ai retweeté hier. Si vous êtes sur Twitter, allez voir ça sur mon compte Twitter. Isabelle Massé, donc journaliste de la presse, là. Sérieusement, là, c'est... Je sais même pas c'est quoi. Tu sais, il y a une...
C'est du pâté chinois, je suis sûr.
Tu penses que c'est du pâté chinois? Il y a comme une motte de patates pilées, là, comme...
Avec une cuillère à crème à glace.
C'est ça, cuillère à crème à glace qui a été garochée dans une assiette de carton. Il y a des petits pois verts. D'après moi, ils ont été faits il y a 2 semaines. D'après moi, les petits pois verts, ils ont été réchauffés il y a 2 semaines.
Mais en fait, c'est probablement congelé et ça fait longtemps que ça a été cuit, là.
Ouais, ça fait longtemps que ça a été cuit. Puis d'après moi, un minimum 2 semaines. Puis là, il y a comme c'est ça, on dirait un morceau de savon ou un morceau de fromage. Puis on sait pas trop c'est quoi. C'est-tu une omelette? C'est dégueulasse. Dégueulasse.
C'est zéro réconfortant.
Zéro réconfortant, c'est totalement inacceptable. Puis, tu sais, elle dit pas quel hôpital, je sais pas trop si c'est une personne âgée qui a eu ça, mais 16h40, c'était ça le souper hier. C'est vraiment, là, ça a fait le tour pas mal, là. Ça a été repartagé pas mal, cette image-là. En 2022, je veux dire, c'est totalement inacceptable, ce type de repas-là dans un hôpital. Tu sais, ça a aucun sens. On nous dit que... OK, il y a deux auditeurs qui nous mentionnent ça via le 25226, que Christian Dubé vient justement d'annoncer au 98.5 qu'il va être candidat à la prochaine élection provinciale.
Y a-tu quelqu'un qui doutait de ça?
Ben, oui, il y avait quelques... il n'était pas clair là-dessus, puis c'est quand même... Ça a quand même été 2 grosses années. Puis Christian Dubé, c'est quelqu'un qui, dans le privé, peut gagner dans les six.
Oh oui, ça, c'est clair.
C'est un gestionnaire de haut calibre dans les milieux financiers.
Il est allé à Cascade, lui aussi.
Il est allé chez Cascade, il est à Caisse de dépôt. Lui, il n'a pas besoin de ça dans la vie, là, être ministre de la Santé, là, lui, avec les problèmes qui viennent avec, à 180 000 par année. Il n'a aucunement besoin de ça. Mais donc, il a confirmé ça, qu'il allait être de nouveau candidat.
Mais quand tu t'engages dans une réforme comme ça, je pense que tu veux l'amener à terme.
Oui, c'est ça. C'est un grand projet. C'est un gros projet de société. Ça n'est un vrai, là. Quand on parle de projet de société, est-ce qu'ils vont avoir le courage de faire les vraies réformes nécessaires? Bien, on verra, puis on va pouvoir se prononcer à l'élection là-dessus, là, sur comment ils sont partis.
En tout cas, s'ils font pas de grands changements du réseau de la santé, honnêtement, ça va prendre quoi? Ça va prendre une épidémie de choléra, là? Parce qu'à un moment donné,
on n'a pas les moyens, Pierre, de rien faire.
Ben, je le sais bien.
On n'a pas les moyens, c'est ça.
C'est mon point, c'est exactement ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Je veux dire, si là, ça marche pas, là, ça va prendre quoi après?
Ben, c'est
ça. Si on n'a pas le wake-up call que ça nous prend là, comme société, que le système de santé ne marche pas là, on ne l'aura jamais.
On l'aura jamais. Il est là.
On l'aura
c'est,
jamais.
C'est là que ça se passe. Puis moi, c'est sûr que je rêverais d'un système de santé où il y aurait une concurrence entre le privé et le public, un genre de système mixte. Je pense pas qu'ils vont aller là. Ils vont peut-être ouvrir un petit peu plus de portes au privé. Mais le point le plus important, je vous le dis, qui va être à surveiller d'ici à l'élection, parce qu'on va être à place prononcée. Puis écoute, pas sûr qu'ils vont le temps de régler ça d'ici à l'élection, mais c'est la manière de financer les hôpitaux. Ça, tu sais, quand il a sorti sa cinquantaine de recommandations, ouais, la manière de financer les hôpitaux, est-ce qu'on va continuer avec la vieille méthode, c'est-à-dire un financement historique, ou on va plus y aller selon les actes médicaux pour qu'un patient devienne un revenu et non une dépense? Plus t'as de patients, plus t'as de revenus. C'est ça la méthode qu'ils doivent appliquer pour financer les hôpitaux au Québec.
Parce qu'en théorie, plus t'as de patients, plus t'as besoin de toute façon des
exactement
fonds qui vont
avec. Exactement ça. Mais là, on y va plus avec une espèce de financement historique. Ah, oh, eux autres, ils ont toujours eu telle affaire, ben on okay continue. Même s'ils prennent moins de patients, ils continuent à fait financer
ça, ça
autant.
Ça serait plus à la pièce, dans le fond. Donc
c'est
vraiment,
ça.
Là,
pour que si, mettons, nous autres, moi j'arrive à l'hôpital, mettons, pour un pontage un jour. OK, lui, Landry, c'est un bon client, lui. C'est un bon client. Même si c'est le public qui paye. Lui, on le veut. Tu sais, on... C'est une façon de faire pour que les hôpitaux vous veuillent comme client. Pour que les hôpitaux veuillent avoir à vous opérer puis à vous donner des traitements. Alors que là, c'est pas ça pantoute. T'as ouais ton financement pareil. Donc, le patient est vu comme une dépense. Le financement est assuré. Fait que tous les patients qui arrivent, c'est des patients de trop. Tous les patients, c'est des patients de trop. T'sais, on vous veut pas à l'hôpital présentement. Faut trouver une façon où les hôpitaux vont vous vouloir comme patient et comme client. Et ça va être ça, son grand défi. Ça va ouais être ça. Puis ça, il va avoir un peu de résistance, ça sent un gros changement comme ça. Tu sais, tous les lobbies, les puissants syndicats de médecins, les syndicats aussi des en soins infirmiers,
mais
les
on n'a jamais frappé
etc
de mur comme on a frappé un là dans les deux dernières années. Jamais, jamais,
jamais,
jamais,
Pierre.
Attendez,
jamais.
Le mur, il s'en vient encore plus parce que là, il y a du monde qui sont restés dans le domaine de la santé parce qu'ils voulaient pas abandonner leur gang, parce qu'ils voyaient qu'ils étaient dans merde.
Ouais.
Et là, ça va. Et, en tout cas, j'imagine que ça va relâcher un petit peu. Il y en a qui vont partir encore.
Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Puis c'est un autre mur encore pire qu'on va frapper, mais. Mais si on réagit, je pense qu'on est d'accord, là, si on ne réagit pas là, là, en tant que société, jamais on va réagir. Mais c'est quoi la suite si on réagit pas?
Écoute,
je peux dire, ça n'a pas d'allure.
Aller dans
là.
Ce domaine-là aussi,
mais,
hein.
Ben, c'est ça, t'as raison. Mais, tu sais, Omicron a mis la société québécoise à genoux, là. Tu sais, je veux pas retourner le fer d'emblée, mais repensez à votre soirée du 31 décembre. La société était à genoux, là.
Ouais.
L'alarme, le couvre-feu, le si, c'est épouvantable. Ça
vaut que on n'a plus jamais revu ça.
En passant, il n'y a personne qui a aimé ça. Là. S'il y en a qui non pensent qu'il y en a qui ont aimé ça, il n'y a personne qui a aimé ça.
Non, il n'y a personne qui a aimé ça. C'est confirmé. C'est personne. Confirmé qu'il n'y a personne qui a aimé ça. Petite dernière, peut-être, cher collègue.
Non, on a fini.
Vous avez fini, vous avez fait le tour. Excellent. Est-ce que vous parlez pour voir, moi, je fais telle nouvelle,
non.
Puis non?
Non, non, c'est pas vrai que je vais parler avant
6 heures
le matin.
Okay,
lui, là,
okay, il m'a trop
non,
ouais. Non, c'est ça.
Non, mais notre façon de fonctionner, c'est ça. C'est Karen qui prend la première, puis après ouais ça, on suit chacun notre tour.
Je sais pas de quoi qu'elle va parler.
On essaie de raconter une histoire. T'sais, si on est dans le domaine de la santé, on ouais va rester dans la santé. Si on ouais va dans le domaine de.
Ah, ben c'est
trop,
bon.
Quoi.
Idéalement, on couvre toutes les nouvelles. Comme Pierre fait le 5 heures, il fait vraiment le tour. Ben lui, je sais qu'il les a toutes.
Ah, OK. C'est bon. Excellent.
Parce que le 5 heures, c'est meilleur avec du beurre.
Oui, c'est Kiwi qui chante.
Mais là, on
ça
manque de beurre.
Il est bon chanteur, Kiwi. J'avais ouais jamais pogné sa toune de Réveille-moi pour écouter Pierre Blais.
Celle-là est bonne, mais la première qu'il m'a faite pour ouais la, l'automne dernier, là, c'était, ouais, je me souviens pas c'est quoi c'est une chanson de Footloose, je pense. Elle était vraiment très, très bonne. Ah, on va essayer de vous la ressortir pour la semaine prochaine.
Good! Hey, merci. OK, parfait. Continuez de nous écrire via le 25226 si jamais ça vous tente. Hey, il est déjà 7h55. On s'arrête quelques instants. C'est Dupont le matin qui se poursuit au 93.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.